Moi, je voudrais vous parler ce matin d'un livre, livre assez court de la Bible que j'ai été poussé à étudier pendant les vacances. C'est le livre d'Habacuc, composé de 3 chapitres uniquement. Et Habacuc, donc, il a servi le Seigneur, on va dire, voilà, aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Alors on peut se dire, ouais, mais nous, on est en 2026, ça paraît un peu loin tout ça. Mais je vous rappelle 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute écriture est utile pour instruire et pour enseigner. Et je pense que il y a encore vraiment des choses pertinentes pour nous aujourd'hui à tirer de ce texte biblique. Donc, qui est Habacuc? À vrai dire, on ne sait pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'il est prophète. Donc c'était un contemporain de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et le contexte historique... Donc il évoluait dans le royaume de Juda, et Juda était au bord de l'effondrement. C'est un royaume qui était faible, instable, avec un roi qui était injuste, violent, alors que dans le passé il y avait Josias qui avait initié des réformes, il avait supprimé des pratiques idolâtres, mais ensuite, après sa mort, Juda est revenu, est retourné à une mauvaise attitude. Et donc, qu'est-ce que ce prophète Habacuc, il constate? Injustice, oppression, violence, querelle, discorde. Le méchant triomphe du juste. La justice n'a point de force. La loi n'a point de vie, dit ce prophète. Littéralement, la loi est froide, non respectée, mise de côté, comme congelée quelque part. Et l'on rend des jugements iniques. Et l'on rend des jugements iniques. Vous vous souvenez peut-être de ce que Alain nous a dit le 26 juillet, il nous a parlé de ces lois pernicieuses, hein, qui passent aussi et qui ne rendent pas gloire à Dieu. Donc, ces caractéristiques-là ressemblent à celles d'un pays qui s'est vraiment détourné de Dieu. Et donc, ça c'est le cri d'Habacuc, le constat d'Habacuc, et Dieu va lui adresser une première réponse, quoi, quelque part. Il lui dit, je vais envoyer les Chaldéens, c'est-à-dire, je vais envoyer les Babyloniens. C'est la première réponse de Dieu. Et effectivement, la Syrie est en train de s'effondrer, Babylone monte en puissance, et Nabucodonosor, lui, il écrase tout sur son passage. Et effectivement, Juda sera le prochain à faire les frais de Babylone. Donc, comme on le sait, donc en 586 avant Jésus-Christ, donc Jérusalem est détruit, le temple est brûlé, la population est déportée. Certains considèrent que c'est l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire juive. Donc, Habacuc, lui, on va dire, il prophétise juste avant cet événement tragique, entre 600 et 610 avant Jésus-Christ. Et donc, il dit clairement, enfin c'est Dieu qui lui dit, « Je vais susciter les Babyloniens, les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux. » Alors, quelles sont les caractéristiques de ce peuple qui vont donc conquérir, envahir Juda? Premièrement, violence. « Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Violence. Deuxièmement, rapidité. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Troisièmement, leur arrogance. Ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Quatrièmement, puissance militaire. C'est un peuple qui se rit de toutes les forteresses. Cinquièmement, l'irrespect de l'autorité. Ils se moquent des rois. Les princes font l'objet de leur raillerie, de leur moquerie. Et sixièmement, l'idolâtrie des Babyloniens. Et là, je cite Habacuc qui dit... À quoi sert une image en fonte, une idole qui enseigne le mensonge? Une idole qui enseigne. Donc on est un peu à la veille de la rentrée scolaire, mais indépendamment de ça, on transmet tous, on est tous quelque part des enseignants, que ce soit en famille, vis-à-vis de nos enfants, petits-enfants, des collègues sur le lieu de travail, en vacances, avec des amis. On transmet aussi qui on est. Et comme vous le savez, l'éducation, la transmission, l'instruction n'est pas neutre. Il y a toujours un combat spirituel derrière. Et Habacuc, lui, va aussi avoir la révélation que c'est Dieu qui envoie les Babyloniens. Et il dit, ô Éternel, tu as établi ce peuple, les Babyloniens, pour exercer tes jugements. Et je crois que il ne faut jamais oublier que Dieu est un juge juste, un père juste. Ne jamais oublier ça, quels que soient les jugements. Et je crois que c'est Vito qui avait cité le psaume 89-14, hein, il peut me corriger si je me trompe, c'est toi qui avais dit, qui avait cité « Justice et équité sont la base de ton trône ». C'est bien cela ? Je le vois. Ah oui, là, il pourra confirmer plus tard. « Justice et équité sont la base de ton trône ». Donc, n'oublions jamais que la souveraineté de Dieu, elle est toujours enveloppée dans sa justice. Même si on ne comprend pas tout, la souveraineté de Dieu, elle est toujours enveloppée dans sa justice qui est parfaite. La justice de celui qui a des yeux qui sont trop purs pour voir le mal et qui ne peut pas regarder l'iniquité. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et encore quelque chose, une caractéristique qui est frappante au sujet de ces Babyloniens qui vont envahir Juda, c'est qu'il est dit à leur sujet, au sujet de son peuple, sa force à lui, hein, je cite la parole, sa force à lui, voilà son Dieu. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et moi, ça me fait penser un peu à une tendance qu'on peut constater de nos jours, c'est ce que les gens appellent le technologisme. C'est-à-dire, c'est la technologie, en gros, ce que l'homme fabrique de ses propres forces, qui va amener la solution à tous les problèmes, qui va être le moteur principal du progrès. Hein. Et là, je me dis, ah, attention, parce qu'on est bien d'accord, Babylone, ça représente bien sûr l'esprit du monde. L'esprit du monde. Et cet esprit du monde, cet esprit babylonien, que nous dit Habacuc, il est agressif. Il est dit que les Babyloniens jettent leurs filets. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers. Hein, Anne Pierre-Lien parlait de prison, de pensée notamment, il assemble des prisonniers comme du sable. Donc là, on retrouve des caractéristiques de l'esprit du monde. Orgueil, comme j'ai dit avant, faire toutes ses propres forces et de s'en vanter. Une sorte d'humanisme aussi athée, sa force à lui, voilà son Dieu. Moquerie, irrespect anarchique face à toute autorité, il se moque des rois. Et on l'a lu aussi précédemment dans le passage que Werner a choisi, dans Éphésiens, où il est parlé de cette dimension de rébellion, l'esprit qui agit dans les fils de rébellion. Ben, c'est l'esprit du monde, hein, c'est l'esprit de l'ennemi. Et il est dit aussi au sujet de ce peuple babylonien, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi, donc Babylone, qui verse ton outre et qui l'enivre, qui le rend saoul, afin de voir sa nudité. Donc en gros, ce livre nous dit que les Babyloniens, ils enivrent les nations, hein, pour les séduire, les manipuler et les dépouiller, les déshonorer. Et là, je pense que vous avez peut-être déjà fait le lien dans votre tête, ça nous fait bien sûr penser à cette Babylone spirituelle qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Que fait cette Babylone spirituelle? Elle enivre les nations. Pareil, pareil. Toutes les nations buent du vin de la fureur de son impudicité. Les habitants de la terre ont été enivrés de son vin. Elle fait boire à toutes les nations du vin. C'est dit quand même à trois reprises dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est clair que c'est un esprit de corruption, de séduction, de domination. Et je me souviens aussi du message d'Alain, cet été, qui nous a dit, en citant le livre de Jacques, qui nous a dit, attention, on est bombardé tous les jours par des choses de l'esprit du monde. Tous les jours, si on les accepte, elles nous affaiblissent. En gros, si on accepte les coupes de vin qu'elles nous proposent, cela va nous affaiblir. Et tu avais cité, Alain, un Jean 2,15, n'aimez point le monde, sous-entendu l'esprit du monde. Pas le monde en tant que tel, parce que Dieu a tant aimé le monde, mais l'esprit du monde, d'accord? Et il est dit, tout ce qui est dans le monde, on connaît ce passage, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous voyez, on retrouve cela, chez les Babyloniens. La convoitise, c'est convoiter, conquérir, envahir, posséder. Et l'orgueil, aussi des Babyloniens. Donc, il y a quelques instants, il y a quelques minutes, on a bu pour la plupart du vin. Et quand je vois un peu cette notion de vin aussi dans le livre d'Habacuc, quelque part, quand on boit du vin, on se positionne. Tu as toujours le choix au quotidien aussi. Est-ce que tu veux du vin babylonien ou du vin divin? Et c'est une guerre de positionnement. Donc là, tu te positionnes aussi à chaque fois que tu bois ce vin. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que Habacuc lui-même a la révélation que cet esprit des Babyloniens, cet esprit du monde, n'apporte aucun bonheur, aucun épanouissement au final. Il est dit dans au chapitre 2, verset 5, « L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. » Et ça, on le voit aussi dans le monde. Les gens qui veulent toujours plus, d'accord, il y a des progrès à plusieurs niveaux, des bonnes choses aussi, mais quelque part, il est dit, il est insatiable comme la mort. Il y a toujours une agitation, une frustration, on n'est pas tranquille, parce que ce vide en forme de Dieu n'est pas comblé. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Alors ce prophète aussi Habacuc, on ne sait pas grand chose de lui, mais on découvre un peu ses émotions. Et lui, il est là, donc, avec cette révélation de Dieu qui va lui dire, les Babyloniens vont envahir le pays. Et il y a ce cri du prophète qui est là, qui retentit, déjà face à l'état de son pays, premièrement, l'état de son propre pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, on pourrait dire, ouais, mais jusqu'à quand? C'est un reproche qu'il adresse à Dieu. Et peut-être que vous avez dans vos vies, enfin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ce qui est beau, c'est que dans la liturgie juive, jusqu'à quand, vous l'avez peut-être déjà lu dans la parole, on le retrouve à plusieurs reprises, notamment dans les psaumes. Je ne vais pas tous les citer, je ne veux pas déborder, mais jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand l'ennemi blasphéma-t-il? Jusqu'à quand? Ben, ce jusqu'à quand, ce qui est important à noter, à relever, le jusqu'à quand, c'est je refuse la résignation. Et c'est Alain aussi qui nous avait dit, attention à ne pas baisser les bras, attention à ne pas s'accommoder. Ah ben c'est comme ça alors, c'est comme ça. Non, non, non. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, ce cri ce cri qui se bat contre la résignation, il faut qu'il continue de retentir. Parce que on est appelé aussi à résister. Et d'ailleurs, Les rabbins, ils ont un terme très intéressant, ça s'appelle Emouna Lo Emet, qui veut dire la foi combattante. C'est cette foi qui refuse, cette foi qui voit le mal autour de nous, mais qui refuse de l'accepter. Cette foi qui refuse de perdre espoir. Et Habacuc, donc, ensuite il a la révélation que les Babyloniens ils vont venir, et là il pourrait dire, mais je pars. Je suis découragé, parce que là, vraiment, ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, chapitre 2, « J'étais à mon poste, il reste à son poste, et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et c'est Elisabeth qui nous a dit durant la louange aussi, « Attention, te faire voler ce temps d'intimité avec le Seigneur, quelles que soient tes circonstances. » Et là, l'Éternel lui adresse une parole, lui dit, écris la prophétie, grave-la, écris-la. Et là, il lui annonce que ces Babyloniens, à leur tour, vont être jugés. Comme cette Babylone de l'Apocalypse aussi, elle va être jugée à la fin des temps. Et il lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Les prophéties, les promesses de Dieu marchent vers leur terme. Et elle ne mentira pas. Les promesses de Dieu, pour toi et pour moi, ne mentent pas. Et connaissez ce passage qui dit « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc oui, la Babylone aussi, cette Babylone qui essaye d'avoir son emprise sur nous, elle est appelée à disparaître. Et il est dit clairement, Donc c'est Dieu qui s'adresse à Babylone. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. En gros, tu as bâti ta propre ruine quelque part. Et cela veut dire aussi quelque part, ça me parle aussi, c'est que le péché est toujours autodestructeur. Toujours autodestructeur. Bien sûr, il y a heureusement la grâce de Jésus qui nous lave, mais s'opposer à Dieu, c'est s'opposer à la vie, parce qu'il est la source de la vie. Et s'opposer à la vie, c'est s'opposer à sa propre vie, c'est s'opposer à soi-même en quelque sorte. Et c'est ce que les Babyloniens ont fait. Et on connaît ce fameux, c'est peut-être une phrase qu'on connaît du livre d'Habacuc, c'est « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par sa foi. Et donc, on a plusieurs perspectives aussi complémentaires pour interpréter ce passage. On a bien sûr cette perspective juridique qui a été reprise par le Nouveau Testament, par Paul et ensuite par Luther. C'était le cri « sola fide » seulement par la foi. C'est « on est sauvé par la foi, sans les œuvres », comme Werner l'a rappelé avant. Et ça, c'est un fondement qui est bien sûr essentiel. Mais il y a aussi une autre perspective qui est complémentaire, c'est quand il est dit « le juste vivra par sa foi », c'est le terme « emouna » dont j'avais déjà parlé, et « emouna » veut dire aussi « fidélité, fiabilité, persévérance », c'est tenir ferme quand ça s'effondre, quand il y a des secousses autour de moi. Et ça, ça veut dire en gros « tenir debout », Quand ça secoue quoi quelque part. Et ça, c'est vraiment important de vivre cette foi émouna au quotidien. Cette foi stable, ferme. Le juste vivra par sa fidélité. Et là, il est aussi question pour moi de qualité de vie. Parce que si à chaque fois que y a des secousses, eh ben, quelque part ça t'ébranle dans ta foi, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Et ça, c'est aussi un piège de l'ennemi. Et j'aurais envie de dire aussi, même si je pense pas que ce soit l'interprétation du texte, mais on pourrait faire un tout petit jeu de mots, le juste vivra par sa fidélité, ça, avec un S majuscule, par la fidélité aussi de Dieu et du Christ. Il vivra par sa fidélité à lui, envers nous. Et dans le chapitre 1, il y a des images terribles qui parlent de cette future conquête de Babylone. Et là, il est dit, et quelque part, que Babylone va jeter son filet, en gros, pour attraper ses proies, quoi, comme de vulgaires poissons. Et on sait que la mer, ça représente aussi voilà, l'agitation des nations. Et cette image, elle est quand même intéressante parce que je vois, comme à l'image du vin, on est dans une bataille de filets quelque part. La question c'est, dans quel filet tu vas te trouver ? Soit dans le filet de Babylone, soit dans le filet du maître, quelque part. Mais en gros, tu peux pas être entre les deux. Tu peux pas être entre les deux. Dans quel filet es-tu ? Et là, Habacuc, il a une promesse d'une beauté. Parce que en même temps, donc, il y a cette image terrible de la mer et donc cette conquête. Et en même temps, Dieu lui dit, on connaissait ce passage, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, tiens, il reparle de la mer, par les eaux qui le couvrent. Littéralement, c'est car la terre sera remplie pour connaître la gloire de Dieu. Ce sera le but. La terre sera remplie. Pourquoi ? Pour connaître la gloire de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc c'est la destinée finale de la terre, connaître la gloire de Dieu. Et connaître, ça aussi, on connaît, ça vient de la racine yada, c'est pas connaître intellectuellement, c'est vivre, expérimenter, et être transformé par cette présence divine. Amen. Et enfin, chapitre 3, là, Habacuc, après cette promesse, qui est quand même une superbe consolation, dit un jour, tu vas voir, la gloire de Dieu va remplir cette terre, là, qui va d'abord subir une attaque terrible. Et là, en Habacuc 3, on a ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. Je cite, « Dieu vient de Téman, le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Ah, on retrouve ça, « sa gloire remplit la terre. » C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Tu sors pour délivrer ton peuple. Donc là, on voit un Dieu qui vient, qui marche, qui sauve, qui écrase le mal et qui libère son peuple. Et là, bien sûr, ben, on peut y voir une préfiguration de l'œuvre du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Christ qui vient, qui sauve, qui juge et qui libère. Alors c'est comme si on avait une sorte de mini-apocalypse dans ce chapitre 3, mais qui annonce le Christ victorieux. Et dans la foulée, Habacuc, alors qu'il a quelque part cette... Il voit ce Dieu qui va venir, mais Habacuc se souvient tout à coup qu'il y a d'abord les Babyloniens qui vont venir. Et là, il est dit, « Mais en silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, ainsi de suite. » Donc, en attendant, il va y avoir cette conquête terrible. Et là, quelle est la réaction d'Habacuc? Et là, il y a un terme clé, quelque part, c'est « toutefois ». Et ça, j'ai bien aimé aussi Werner, avant, quand il a lu Éphésiens 2, « On était, voilà, morts par nos offenses, par nos péchés, mais Dieu, mais Dieu. » Et là, pareil, « toutefois », ou « mais », si tu veux, c'est pareil. Là, il y a un « toutefois » qui sort de la bouche d'Habacuc. « Toutefois », mais « toutefois » quoi? Et « toutefois », en hébreu, « vaani », ça veut dire, plus précisément, mais « quant à moi, pour ma part », en gros, ben, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Et lui, qu'est-ce qu'il choisit, Habacuc? La joie. La joie. Il choisit la joie. Je cite 3.18, Habacuc 3.18, « Toutefois, c'est-à-dire, quels que soient mes combats actuels, quels que soient mes défis, quels que soient les secousses que j'ai, quels que soient les secousses qui vont venir, après, on a une année électorale devant nous, après, peut-être que ce sera relativement paisible, j'en sais rien, mais quand il y a une année électorale, il y a quand même souvent pas mal de secousses, quoi, hein, quelque part au niveau du pays, une certaine instabilité. Et ensuite, quand l'élection aura lieu, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Peut-être ça va être calme, peut-être pas, mais voilà, on ne sait pas, quelque part. Mais on est dans le toutefois. Même si ça va bouger, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et là, ce qui est beau aussi, c'est un peu dommage dans la traduction. La traduction est un peu appauvrie parce qu'on a deux fois « je veux me réjouir ». Alors, bon, ça revient au même. Mais je voulais quand même signaler que l'hébreu utilise deux verbes distincts pour les deux occurrences de « je me réjouis ». Le premier, c'est le terme hébreu « eloza ». C'est « je bondis de joie ». Toutefois, je veux bondir de joie. Et le deuxième, c'est le deuxième terme, c'est Egila, qui veut dire, ça va encore plus loin, je veux danser, tourner de joie. Je veux danser de joie. C'est ça ce qu'il dit. Je veux bondir de joie, je veux danser de joie. Dans cette perspective-là. Et Vito avait aussi cité, il me semble, maintenant il est là, donc il peut dire si j'ai des bêtises ou non. Tu avais cité, me semble, le verset suivant, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Il me semble, récemment. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, certainement, mais je trouve que c'est déjà touchant de voir, par exemple, un père ou une mère qui console un enfant qui en pleure parce qu'il lui arrivait quelque chose, et on voit l'enfant, le parent qui lui essuie les larmes, et l'enfant dont la tristesse commence à disparaître et qui est calme. Moi, je trouve ça, c'est touchant de voir ça. Mais là, je trouve ce qui est encore plus touchant, c'est de voir des parents qui consolent un enfant, l'enfant qui pleure, qui en sanglots, l'enfant qui se calme, et d'un coup l'enfant dont le visage rayonne de joie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, j'aime voir ce genre de scène dans des parcs où, waouh. Et ben là, c'est exactement pour moi ce qui se passe avec Habacuc. Il dit, donc déjà, il veut se réjouir, il est dans la joie, alors que le livre commence par jusqu'à quand, hein. Et je veux me réjouir. Je me réjouis même. Je veux me réjouir. Et là, il dit, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous vous souvenez du terme? Deuxième terme. Je veux danser de joie. Je veux bondir de joie. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et d'ailleurs, on pourrait dire, oh, la biche, c'est mignon. Mais c'est intéressant qu'il choisisse cet animal. Pourquoi? Parce qu'il est question de lieux élevés. Alors, pourquoi il n'a pas choisi, je ne sais pas, le cheval? Le cheval, il est puissant, mais il glisse sur les rochers. Pourquoi pas le lion? Le lion, il est fort, mais un lion ne grimpe pas sur les falaises. Pourquoi pas l'aigle? Ah voilà, l'aigle, la dimension prophétique. L'aigle vole, mais il n'aime pas marcher sur les hauteurs. Il vole, mais il ne marche pas. Il ne marche pas trop. Alors que la biche, elle, qu'est-ce qu'elle combine? Stabilité fois emouna. Stabilité, agilité sur les lieux élevés. Et une sorte de capacité à survivre aussi dans des terrains un peu difficiles. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même les Babyloniens, ils aspirent aussi à un lieu élevé. C'est dit dans ce même livre. Tout le monde aspire à un lieu élevé. Il est dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, c'est adressé à Babylone, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Donc ça, c'est le chemin des Babyloniens pour avoir un nid élevé, donc c'est la violence, la conquête, le péché, quoi, quelque part. Et là, il est dit, mes lieux élevés, ça vous l'avez peut-être remarqué, il me fait marcher sur mes lieux à moi, mes lieux élevés. Et c'est aussi intéressant à noter parce que ça veut dire quoi? Mes lieux élevés. Ben, on pourrait penser à ta destinée, quelque part au sommet de ta propre destinée, aux bonnes œuvres préparées d'avance dont ça a été cité par Werner, Ephésiens 2:10. Dieu t'a libéré pour que tu évolues dans tes lieux élevés, c'est-à-dire dans ta vocation. Et ce qui est beau aussi à noter, et ça c'est intéressant aussi parce qu'Anne en a parlé avant, tout à la fin, donc il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instrument à cordes. Donc c'est-à-dire, ces proclamations-là étaient destinées à être chantées, la louange. Et donc, Habacuc, là, il chante quelque part avant la délivrance. Et c'est ce que Anne nous a dit. Elle a dit, quand tu es dans une prison, d'accord, ben, n'attends pas de sortir de la prison pour louer. Tu loues à ce moment-là comme Paul et Silas. Mais là, c'est pareil. Tu chantes, tu loues avant la délivrance. Et là aussi, quand on voit aussi l'histoire du peuple juif, cette résilience, ben, c'est des rabbins qui disent... Le chant, c'est l'arme du juste. Mais c'est exactement ça. C'est chanter, quelque part, chanter les promesses de Dieu, même quand ça ne va pas. Parce que Dieu est fidèle. Donc, chanter ou louer, c'est refuser la peur, refuser la résignation. Ça, c'est aussi un ennemi. La résignation, c'est comme ça. Refuser la fatalité, et c'est refuser de laisser le mal définir l'avenir. C'est pas laisser courir comme ça. Et par rapport à l'éducation chrétienne, je pense que c'était aussi ça. C'est refuser la fatalité, dire c'est l'État qui enseigne nos enfants, c'est comme ça. Non, il y a une voie aussi alternative. Et j'ai bientôt terminé. Il y a peut-être une chose qu'on peut dire sur le prophète Habacuc. C'est son prénom, Habacuc, ce que ça veut dire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient de la racine hébraïque avak, qui signifie embrasser, serrer contre soi. Et on l'a chanté là, c'était le chant de Samuel Olivier. C'est Dieu qui ouvre ses bras ou qui a son cœur grand ouvert. C'est un peu ça, avec mes mots. Donc, Habacuc, on peut le traduire de deux manières. ce prénom, quoi, Habakkuk. Tout d'abord, on pourrait dire celui qui embrasse. Celui qui embrasse. Donc en gros, c'est celui peut-être qui, on pourrait dire celui qui serre le peuple contre lui, hein, qui se tient à la brèche pour son peuple, celui qui entoure son peuple de compassion, et celui aussi qui embrasse Dieu, qui s'attache à Dieu malgré l'injustice du monde, qui est là et qui le tient et qui ne veut pas le lâcher. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, on a l'expression embrasser une carrière. Ah, lui, il a embrassé une carrière militaire, ainsi de suite. Ben, c'est aussi quelque part embrasser ta destinée en Dieu, les bonnes œuvres préparées d'avance, tes lieux élevés, embrasser, accueillir. Hein, Hébreux 12:1 qui nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Il dit « Embrasse-la et garde-la, ne la lâche pas, malgré les combats. » Ou bien, autre interprétation du prénom Habakkuk, c'est « Celui qui est embrassé ». Soit c'est celui qui embrasse et celui qui est embrassé. Et là, on voit dans ce livre aussi un Dieu qui le console, un Dieu qui l'étreint, qui le soutient, un Dieu qui le serre contre lui dans ses moments de crise. Un Dieu bon, un Dieu qui est fidèle. Et je me souviens de ce que Agnès elle avait dit en juillet. Tu avais prié pour Jean-David. Et tu lui avais parlé de surprises, et je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire des surprises que Dieu aussi peut nous envoyer. Et il est dit, au chapitre 1, il est dit, « Car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Et je pense que nous tous, on peut dire, si j'avais su il y a 15 ans, il y a 20 ans, que j'allais vivre telle ou telle chose, si on me l'avait raconté, est-ce que je l'aurais cru? Peut-être pas. Moi, en tout cas, je pense que si on m'avait dit, il y a 20 ans, il y a ça et ça que tu as vu, tu as rencontré telle ou telle personne, tu vas faire telle ou telle chose, il peut penser ça s'il veut, mais je pense que j'aurais été incrédule. Ça, ce sont les cadeaux de Dieu. Et ce même passage, d'ailleurs, je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Ce même passage donc d'Habakkuk, c'est Paul qui le reprend. Il va dans une synagogue, le jour du Shabbat, et il enseigne, il parle de la mort, du sacrifice de Jésus, de sa résurrection, et il leur dit ensuite, il dit, oh c'est beau ça, il dit, sachez donc, homme frère, que c'est par lui, le Seigneur, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et ensuite, il leur adresse cet avertissement. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contemplaires, soyez étonnés, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. C'est Werner aussi avant qui a dit que Dieu a en lui une richesse infinie de sa grâce. Il citait Éphésiens 2 à nouveau. Et Werner a dit une richesse extraordinaire. Donc c'est ce côté extraordinaire, je crois, qu'on doit garder à l'esprit. Ce côté extraordinaire de la croix. Parce que la croix, un peu à l'image de ce qu'on... Le parallèle est imparfait, mais de ce qu'on voit dans Habakkuk avec ce jugement qu'il y a sur le peuple, la croix, c'est le lieu de jugement suprême. C'est le lieu de jugement suprême, absolu. C'est là où le péché a été condamné. Il n'y a pas plus fort, terrible que ce jugement-là. Mais en même temps, la croix, c'est le lieu suprême de la grâce. Et je pense que Paul, il veut que ses auditeurs, ils captent cela. Et pourquoi, sur quoi je m'appuie? Parce qu'il leur dit à un moment donné, il dit à l'issue de l'assemblée, donc après qu'il a partagé ces paroles-là, beaucoup de juifs et de prosélytes suivirent Paul et Barnabas, qui discutèrent avec eux, écoutez bien la suite, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. C'est marrant parce que on dit, ils s'entretiennent avec eux, mais la seule chose qui ressort de cet entretien, en tout cas qui est relevée, c'est que Paul leur a dit, restez attachés à la grâce de Dieu. Restez attachés, restez attachés. Et donc je voudrais reprendre, juste en guise de conclusion, toutefois, quelles sont les toutefois dans ta vie? Est-ce que tu as des toutefois? Tu n'as pas de toutefois. Moi j'ai des toutefois, peut-être que tu en as. Toutefois, malgré les défis, malgré les choses difficiles, qu'est-ce que tu choisis? Toutefois, je veux, vous voyez, c'est une décision, ça c'est la foi émouvante. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et donc c'est ce que Anne avait dit aussi, Anne, d'ailleurs Anne, je la vois plus. Ah, elle est là, elle est cachée derrière Werner. C'est, tu avais dit, oui, la paracha, cité Ésaïe 54, n'est-ce pas? Je me réjouir, fille de Sion, réjouis-toi. Et moi je crois, en tout cas quand je t'ai entendu parler, je me dis oui, là il y a convergence, je crois que on est appelé à vivre pleinement cette réjouissance au milieu même d'éventuelles secousses, mais déjà dans ta vie, réjouis-toi. Alors on va juste prier un instant. Et moi je vais prier, mais après vous pouvez aussi prier pour vous, quoi, quelque part, et vous appropriez ce message, pas mon message, mais le message d'Habacuc, ce qu'il nous appelle à faire, et la position qu'il nous appelle à adopter, à embrasser, quoi, quelque part. Mais merci Père pour ta parole, merci pour ce livre d'Habacuc qui contient des pépites aussi, à prendre pour notre quotidien. Alléluia. Alléluia. Oui, il peut y avoir des secousses, des vagues. Il peut y avoir cet esprit du monde qui veut avoir son emprise sur nous. Et même on le voit peut-être agir autour de nous et ça fait mal. Mais Seigneur, ce qui est bon, c'est que toi, tu nous consoles déjà en nous disant que la connaissance de ta gloire, elle va remplir la terre. Ça, c'est la destinée de la terre et c'est notre destinée à chacun. C'est notre destinée à chacun. Mais nous, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? C'est déjà boire le vin divin. Boire le vin divin au quotidien. Et éloigner le vin babylonien de nous, qu'on nous tend tous les jours, à travers la tentation. Il nous est proposé tous les jours, ce vin babylonien. Refuser fermement, refuser, et boire, se tourner vers le vin divin, vers les bénéfices de ce vin, c'est-à-dire le sang de l'agneau. Alléluia. S'abreuver de ce vin, de ce sang, c'est-à-dire quelque part en savourer ses bénéfices. Et il est dit aussi que nous sommes appelés à marcher comme des biches, c'est-à-dire avec agilité. Et ça vient pas de nous. Comme ça, on l'a chanté avant, on ne peut rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci aussi pour ton esprit qui nous fait marcher avec agilité sur des lieux qui sont peut-être parfois difficiles. Oui, des pentes qui sont parfois désagréables, qui sont même parfois un peu dangereuses, qui nous font mal, qui sont parfois fatigantes. Mais ce sont nos lieux élevé. Oui, il y a un combat de filet, comme je l'ai dit avant. Ce sont nos lieux qui sont élevés. Donc on est appelé à se les approprier. Et régner, c'est servir. Régner, c'est servir avec les valeurs du royaume. Avec les valeurs du royaume. Alléluia. Marcher sur nos lieux élevés. Alléluia. Et se réjouir. Se réjouir. Nous réjouir parce que tu es le Dieu de notre salut qui va restaurer aussi la terre. Alléluia. Merci pour la liberté de la gloire des enfants de Dieu, dans laquelle nous sommes appelés à marcher, pleine liberté. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen.